de sa collection Noirceur, Ska, l'éditeur numérique, présente Bunker 68, une nouvelle de Max Aubion, lue par Serge Cazenave. Zinzano pesait sur les manivelles tel un furieux. En danseuse, question style, certes, c'était pas du genre ballerine des hauteurs. Ce n'était pas du Charlie Gould, son style. C'était plutôt bûcheron des Ardennes qui hache la cadence. Il te massacrait le pédalier, te cisaillait la chaîne, te zigouillait le pignon, te déboyautait le pneu ballon en basculant son poids d'une pédale sur l'autre et réciproquement. Avec un souffle aussi court qu'un pet de lapin anémique, il grimaçait férocement. Ses mollets étaient tendus à un poil de la rupture ligamentaire. Il avait beau serrer les dents, tirer la langue, faire l'œil mauvais, question énergie, faut pas se leurrer, depuis que Saint-Zano se murgeait au bianco, on peut l'affirmer, le vermouth, c'est vachement traître dans les côtes. Surtout si tu te tapais un handicap qui s'appelait Cécel. Recroquevillée dans la remorque rattachée à la selle de son biclou, elle pesait Cécel, moins qu'une truie de 20 mois, mais pas loin. Et elle saignait Cécel, comme si elle avait ses ragnagnas en inondation. Il m'a flingué, les ovaires se fumier. Si c'était vrai, ça ne pouvait pas le chagriner, le Saint-Zano. Ça lui éviterait d'aller enterrer le fruit des entrailles de Marcel tous les 9 mois, derrière le cyprès, au bout du champ Perchaud. C'est celle sans désoler pour sûr. Zano n'a pas de retenette, c'est misère à chaque fois. 5 charançons à la mamelle, ça suffisait à leur malheur. T'as piqué les piles, j'espère. T'inquiète, j'en ai. Appuie, mon homme, je fais des gouttes sur la route. Putain, c'est la guerre. Et si quelqu'un avait pu voir le sourire de Saint-Zano quand il a prononcé ces derniers mots, il aurait lu de l'allégresse sur ses lèvres. Ah, le maquis, ce n'était pas si loin dans le temps. Il n'y a jamais que 25 ans qui le séparent d'avec ces putains d'événements de Paris. Quand tu as 12 piges, au milieu des héros d'alors, que le feu d'artifice sur les rails, sous les ponts, sur les boches te mettait la tête en boucherie et qu'on te disait « Dégage, minot, va têter ta mère !» et que l'aventure s'ouvre à toi aujourd'hui, tu te dis « Putain, c'est mon tour !» Saint-Zano n'avait pas repéré le fumier en question, le vigile du mammouth. Un gars pas franc du collier, et pas seulement du collier. Si vous repérez l'autre endroit où siège sa saloperie de mentalité de garde-choum, capitaliste, chien de garde du patron du pachyderme, prière de le signaler, bref, un enculé de première. C'est au détour des lessives que le fumier avait voulu les coincer. Plein les poches et les musettes, les boîtes alourdissaient leur fuite. Saint-Zano a shooté dans une colonne de barils homo et patatras. Le fumier s'est ratatiné dans la poudre. Ils ont caleté sous les cris des caissières et des clients collabos, tandis que le vigile a couru chercher son flingot dans son local. On ne savait pas qu'il avait un 2 coups, du petit plomb, mais quand même. Sur le parking, Saint-Zano avait déjà enfourché sa bécane, mis la remorque en ligne en bigornant une dauphine. Cécel peinait à courir avec ses bottes trop grandes et ce fut au moment où elle s'apprêtait à sauter dedans qu'elle a pris la gerbe fatale dans le buffet, en plein au-dessus de sa chatte. Quand Cécel a regardé ses mains rouges de sang, elle a vomi la maudite mère du tireur. Femme de pute constipée! Un coup, pour le réussir, faut être pro. Ces deux-là avaient une ambition de gagne-petit. des improvisateurs. Ce n'était pas du fric qu'ils chouraient, mais des piles de transistors et des boîtes de conserve, du singe et des pilchards, de quoi croûter dans les jours difficiles. Depuis que le pays était bloqué, l'essence ne giclait plus à la pompe et, conséquemment, leurs deux pattes restaient au chaud dans la bergerie. Le réservoir aussi desséché qu'un gosier d'alcoolo en désintox. Une obsession les tarabustait, la peur de manquer. C'était des omnubilés des provisions. Il fallait bourrer leur bunker avec de la mangeaille pour tenir, des fois, que les bolchots et les maos auraient dans l'idée de dévaler en horde dans la vallée du Roule. Ce n'était pas uniquement de la crainte, c'était de la prévision, disait Saint-Anneau. Maintenant, il ne fallait pas traîner, et sans doute bifurquer par le chemin du Grécel. Hors de la route, ils avaient une chance d'échapper aux poursuivants, quitte à terminer à pied à travers les ronciers du Val d'Anquin. Le mas n'était qu'à 3 kilomètres à vol de grive. Au bourg, on avait dû claironner leur dégaine aux gendarmes, un petit balèze avec une grosse espargot en jupe, tout de masqué avec des têtes de Mickey et de Minnie. Saint-Anneau poussait sur les manivelles comme un con, épuisé. « T'arrête pas, Mickey !» Quelle intima celle. Elle releva son masque sur ses cheveux gras, toujours prompte à la moquerie, celle-là, même avec des plombs dans le ventre, une nature. Mais ce genre d'injonction furaxait grandement son homme. « Viens donc prendre ma place, bourrique !» Parce qu'après une petite courbe, il était rentré la tête la première dans le mistral. Un mur de briques pleine face, un obstacle, une épreuve de trop, trop, vraiment trop. Il resta un moment en suspens sur place, hébété. Et pour éviter le gadin, il planta ses deux jambes de chaque côté du cadre, les mains encore crispées sur les guidons. La sueur ruisselait sous son masque qu'il ôta, non sans avoir au préalable regardé autour de lui, pour savoir si le fumier et ses chiens collabos les coursaient au cul. « Ça tient chaud, cette saloperie !» Dans sa bouche grande ouverte entrait le courant d'air qui éteignit son essoufflement de vieille loco. Les képis ne devraient pas tarder. Le couple vélo et remorque avait dû être signalé par des haies dans le bled. Inutile d'être le prince ringué pour connaître les blases des voleurs. Saint-Anneau leva la jambe pour sauter la selle avec peine d'un muscle martyrisé. Il avait une idée pour offrir moins de résistance au vent. Détacher la remorque remplie de la sécelle et la tirer à pied. Ce qu'il fit sous les yeux de la susdite, dont le sourire signifiait « Qu'est-ce qu'il va encore inventer comme connerie ?» Saint-Anneau lança le vélo dans le fourré et les voilà partis. Il tirait la carriole en forçant la cadence. Les toits du mas affleuraient déjà derrière la colline. Sécelle gémissait. Et c'était un genre de musique qui crispait son anneau, insensible. Encore 300 mètres, ils arrivèrent. Les chiens ne gueulaient pas, les chiards ne chouinaient pas. On tirait des coups de feu dans la cour. Ça pétait. Déjà, ses anneaux étaient aux anges. Ils allaient tomber en plein carnage. C'était la guerre. Il allait l'avoir, son baptême du feu, avec des dragées de plomb, carrément. Il bichait. Cécelle faisait grise mine, ce qui ne troublait pas son teint. Quand Maméléone les a vus débouler, elle n'a pas compris tout de suite pourquoi le fiston sautait en l'air, les bras aussi, avec une tête fendue d'une oreille à l'autre, occupée qu'elle était à recharger la deuxième pétoire de papé. Le patriarche visait une cible rouge avec 3 taches noires en guise d'yeux de bouche. Le lugère qu'il avait piqué aux boches au printemps 44 tremblait bien un peu au bout de son bras sec. La tronche en carton dégusta salement un tir et papé explosa, si l'on peut dire. Encore une dans la gueule de Segui, nom de Dieu! Ils sont revenus, dit la vieille en lui tapotant l'épaule. Papé se retourna pour découvrir le charroi pathétique et la tête décomposée de Saint-Anneau, encore ratée, en fait de fusillade, contre des fumiers de Parisiens. Son vieux s'exerçait à dégommer un ennemi de l'intérieur désigné par les bulletins d'information, le chef des partageux bloqueurs. Pour Papé, tout s'emboîtait. Le danger vicieux s'annonçait. La frayeur inondait les esprits aux masses destoulées. Depuis tout ce temps, le ressentiment nourrissait la famille mieux que le pain. La rancune, ça aide à vivre. Le vieux conservait toujours bourré dans une de ses dents creuses une haine contre Lucien Lostal, un FTP qui lui avait piqué sa gonzesse de l'époque. Buter du rouge, voilà un but. Si ce n'est pas lui, c'est sa clique. « On a des piles !» s'empressa d'annoncer Saint-Zanneau. Il s'efforçait d'effacer sa déception. Il craignait toujours une avoinée du père. Et comme Papé agitait devant lui le vieux flingue boche comme un hochet de môme, il lui fallait aussi peut-être serrer les fesses. « Et qu'est-ce qu'elle a, ta bonne femme ?» Il tourna autour de la remorque. « J'ai des piles chères à la tomate, de la marque que vous aimez, beau papa !» Qu'elle glissa Marcel, toute mielleuse, pour amadouer le vieux tyran. Aussi souple qu'un phoque tassé dans une brouette, elle s'extirpa de la remorque. Elle avait une tête affreuse de douleur. Quand Mamet vit qu'elle marchait en canard et qu'elle bouchonnait son tablier sur le bas-ventre, elle comprit qu'un truc pas net était arrivé. Elle suivit le filet rouge dans la poussière, le sang de sa bru. « Et le vélo ?» demanda Papé. « La crever, pas, je veux dire. Après, va ranger les conserves dans la cave. Oui, pas. Voilà, passez vite. Les piles, donne-moi les piles. Tiens, pas. » Papé aurait couru si ses vieilles jambes n'étaient pas aussi flageolantes. Il se hâta quand même, enjamba les deux marches du seuil et se précipita sur le poste qui s'était tu depuis hier au soir. Et sans nouvelles, Papé était aveugle et sourd. Sans info pour connaître la situation, les salopards pouvaient leur tomber sur le paletot sans crier gare, par traîtrise, bien dans leur mentalité. Qu'est-ce qui pouvait donc se passer à Paris ? Il enfila trois piles dans le radiola, comme s'il eût chargé le Lugère avec des balles. Il tremblait quand il actionna la molette pour trouver la longueur d'onde idoine. Ça grésillait. Chut, les réclames. Oh, voilà-t-il. Tout tendu vers l'écoute, il manipula le Lugère, voulut abaisser le cran de sécurité de son doigt racorni par un rhumatisme. Mal lui en prit. La détente effleurée, le coup parti et la balle engagée dans le canon lui fracassa le front. Un pruneau de 9 mm quasiment à bout portant, ça vous bousculait le portrait. Le boucan de la détonation alerta la tribu. Les mômes radinèrent, les clébards hurlèrent à la mort comme de juste. Mamet renversa le seau d'épluchure qu'elle réservait au gros Georges, le gouré. Dans la cave, Saint-Zanneau se prit à espérer que les hostilités reprenaient pour de bon ce coup-ci. Il entassa les deux boîtes de faillot qui lui restaient à ranger, à côté des réserves de singes, et prit l'escalier. Cécel resta assise sur la caisse de patates, un voile passé sur ses yeux. La stupeur passée, ils décidèrent de descendre Papé et Scipion au frais dans la cave, le temps d'aviser. « S'il cocotte de trop, d'ici là, on l'enterrera devant les bocaux. » Ils allumèrent deux bougies et s'installèrent sur des sièges de fortune pour veiller la dépouille du vieux. Son vieux radiola grésillait entre deux réclames, entre deux directs des événements, le poste calé à l'oreille, Saint-Zanneau commentait. Soudain, le grand Charles va causer.
J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la chienlit, c'est fini. Il reste. Pompidou, toujours Premier ministre. Des élections à venir. Oh, quel con, on commençait à bien se marrer.
Le rire forcé de Cécel secoua son ventre, de plus en plus exsangue, l'estafette des gendarmes pénétra dans la cour.
Vous venez d'écouter une nouvelle éditée par Ska, l'éditeur numérique. Ce texte est disponible sur toutes les librairies en ligne.